Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de l'actualité à la GMQ avec Seb. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. C'est pas le meilleur, c'est notre premier épisode, mais j'espère que vous l'avez aimé. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous allons parler des transactions qu'il y a eu dans les dernières heures à la GMQ. Il y a eu plusieurs transactions. Il y a eu aussi du mouvement dans des équipes à la GMQ. Nous allons aussi parler d'un sujet tabou et d'un sujet d'actualité en ce moment, le racisme. Parce que ça a affecté le sport professionnel et ça a aussi affecté la GMQ. Nous allons aussi donner nos opinions sur le classement général, notre opinion aussi sur la dernière saison dans le circuit Courto. Nous allons aussi donner notre opinion sur qui on pense qui sera le meilleur joueur cette année dans le circuit Courto. Et j'espère que vous êtes prêts à nous écouter dans votre cuisine, dans votre auto, dans votre cuisine ou partout où vous nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitch, Patreon, Spotify. Et j'espère que vous êtes prêts à nous écouter parce que nous, on est prêts à vous divertir. Et que, à tous, bonne écoute et bon podcast et merci! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de l'actualité LHMQ. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est une journée très pluvieuse, mais on va vous mettre du bonheur dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de hockey. Et que je vous présente mes deux collaborateurs aujourd'hui qui vont être avec nous. Mon premier collaborateur, il était avec nous dans le premier épisode. C'est un grand fan des Remparts de Québec. Je vous présente M. Étienne Dumas. Salut Étienne!
Salut Seth, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, ça va très bien.
Ah, super! Mon deuxième collaborateur, c'est un nouveau qui se présente avec notre équipe. On l'accueille avec grandiose! Je vous présente Monsieur Louis-Philippe! Salut Louis-Philippe!
Bonjour Cédric, bonjour Étienne, bonjour les gens à la maison.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Ah, super, je suis très heureux que vous soyez avec moi les gars. J'espère qu'on va passer un bon match. J'espère que vous allez aimer être avec moi. Et que un premier sujet qu'on va parler, c'est un sujet assez tabou dans le sport et dans le monde. On sait tout ce qui est arrivé avec George Floyd. Ça a été dramatique. Ça s'est récidivé dans les derniers jours avec Jacob Blake. Ça a affecté le sport professionnel, la NBA, la NHL, la WNBA. Tous les gros sports professionnels ont fait savoir le mécontentement. Et là, LHMQ aussi a fait savoir son mécontentement. J'aimerais savoir, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça?
On commence. Étienne?
Je te laisse commencer, je vais seconder.
OK, bon, aucun problème. Eh bien, écoute, s'il n'y avait pas un problème, on n'en parlerait pas. Malheureusement, c'est surtout qu'il y a des morts. C'est dans l'ADN beaucoup des Américains de s'appuyer sur l'identité depuis plusieurs générations. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Si on regarde toutes les situations, je veux dire, là, on parle de morts, mais il y en a beaucoup qu'on parle pas aussi. Ici au Québec, c'est sûr que c'est un sujet un peu plus malaisant. On se comprend, là, je veux dire, il y a beaucoup moins de décès, il y a beaucoup moins de drames liés à ça. Par contre, il y a encore un certain problème. C'est souvent glissé sous le tapis. C'est quelque chose qu'on veut pas parler. C'est normal, c'est malaisant, je le comprends. Certaines personnes ne se sentent pas concernées, d'autres veulent pas être concernées. Mais je veux dire, si on en est rendu là, c'est parce qu'en quelque part, il y a quelque chose qui marche pas. Puis, je veux dire, on a les tribunes qu'on a, je veux dire, pour le sport professionnel comme autre. Probablement que les artistes, là, attendons-nous à ce que ça embarque dans le bateau. Ça fait un peu une traînée de poudre dans divers domaines. pour que, politiquement parlant, on puisse se mobiliser pour que ce genre de choses-là cesse. Moi, j'aimerais pas être un policier aux États-Unis actuellement qui est une bonne police. Hein. C'est pas une belle réputation, c'est pas facile. Je veux quand même passer aussi parce qu'il y a des bons policiers, il y a des mauvais policiers. Ça dépend de nos mœurs. Or, chez les Américains, les mœurs, ça semble divisé. Ça semble très divisé. Donc, actuellement, je pense qu'ils ont pris les tribunes qu'ils pouvaient. La NBA emboîtait le pas. Toutes les ligues ont suivi. Ça s'est rendu jusqu'ici. Je serais pas surpris qu'un jour, ça se rende sur pas mal tous les continents dans plusieurs domaines. Que ce soit blanc, noir ou autre, ou les religions aussi, parfois, là. La planète est peuplée de différentes sortes de monde. Je pense pas qu'en 2020, ce soit encore pertinent de s'appuyer sur ce genre de choses-là. Puis je suis très content que la Ligue junior majeure suive la motion. On se le dit, c'est un peu ça. On suit la motion, puis c'est correct, c'est légitime, puis c'est parfait comme ça. Il faut casser quelques œufs, faire des omelettes, puis écoute, on a rien à perdre. Comme dirait un sage, si on fait pas partie de la solution, on fait partie du problème.
Oui, très, très intéressant. Pour toi, Étienne, qu'est-ce que tu en penses de du sport professionnel qui boycotte des matchs en solidarité avec Jacob Blake? Est-ce que tu crois que nous, au Québec, puis ça va être une question aussi pour toi, Louis-Philippe, est-ce que tu crois que la LHMQ pourrait se permettre un jour de donner son mécontentement en boycottant des matchs? Est-ce que la LHMQ pourrait se permettre? Vas-y, Étienne.
Je vais y aller. Ben, moi, je pense pas, là, parce que si on regarde les ligues qui l'ont fait aux États-Unis, on a la NBA, on a la LNH, on a la WNBA, on a la MLB. C'est toutes des ligues professionnelles qui peuvent se permettre d'arrêter de jouer là, pendant un certain temps. Ici, au Québec, c'est un problème, là, on se cachera pas, là, mais peut-être moins qu'aux États-Unis. Puis, comme c'est une ligue junior, les joueurs sont pas payés. C'est pas une question d'argent non plus, là, mais. Est-ce qu'on peut se permettre d'arrêter de jouer? Je sais pas.
Ben écoute, moi je pense que c'est une question de se mobiliser. Ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est qu'il y a quelques années, Colin Kaepernick de la NFL, comme tout le monde le sait, avait mis un genou au sol et avait été un peu boycotté par toutes les équipes. Je ne serais même pas surpris que le 13 septembre, tous les joueurs de la NFL mettent un genou au sol à ce moment-là. L'espoir là-dedans, c'est qu'il y a amélioration. On a le droit d'aller vers l'avant. J'imagine que sans boycotter nécessairement les parties, ce qui serait semi-pertinent dans le cas effectivement du junior majeur, on pourrait quand même avoir d'autres moyens de véhiculer le message, que ce soit le genou, que ce soit, je ne sais pas quelle manière qu'ils peuvent trouver exactement, juste d'avoir une certaine symbolique, sans nécessairement, effectivement, parce que financièrement, c'est dur. C'est le gouvernement de la CAQ là, qui a payé pour pas mal toutes les pertes des équipes cette année. Ouais. On peut pas commencer à faire nos difficiles avec ça. Par contre, il faut quand même le signifier. Je suis convaincu que Gilles Courtois va trouver de façon.
Oui, absolument.
Oui, très oui.
Puis je voyais beaucoup de personnes cette semaine dire « Ah, on mêle la politique au sport », mais c'est plus de la politique, là. C'est y a un message à passer. Puis je pense que les ligues professionnelles l'ont très bien fait cette semaine.
Oui.
On parle de vie ou de mort, effectivement. Ça devient plus gros pareil. Là. On parle pas juste d'insultes ou de N-word ou de, excusez-moi, là, mais de ce genre de mépris. Là. On parle littéralement de vie enlevée, injustement. Je ne dis pas que les gens qui sont décédés étaient nécessairement des anges. Je veux dire, de là à avoir la mort gratuite. Je pense que c'est surtout ça qui mobilise les gens actuellement, c'est les décès. Il faut que le message change. Absolument, on est en Occident, puis en 2020, il faut que ça change.
Puis je rappelle aux gens que ce que mobiliser les circuits professionnels, c'est que Jacob Blake s'est fait tirer 7 balles dans le dos par un policier blanc au Wisconsin. Et ça a fait la colère de plusieurs milliers de gens. Et ça a vraiment affecté le sport professionnel. Mais moi, je crois que, moi je donne mon opinion, je crois que, comme je vais me ranger sur le bord d'Étienne, je crois pas que la LHMQ peut se permettre de boycotter des matchs. Financièrement, ils peuvent utiliser d'autres moyens pour donner leur mécontentement sur ce qui se passe en ce moment. Comme en ce moment, ils lancent plusieurs messages sur les réseaux sociaux, sur leur site internet. Mais je pense pas que la LHMQ peut se permettre de boycotter des matchs comme les ligues professionnelles. Nous allons passer à un sujet plus joyeux. Ça commence rough le podcast, mais je voulais commencer par ça pour parce que c'est important d'en parler. On va tous les trois donner notre classement général pour la saison 2020-2021. Ça sera pas facile parce que ça va être, toutes les équipes vont jouer par division, mais ça a duré quelques heures avant qu'on finisse nos notes, mais j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt à donner mon classement. On va commencer par Étienne et qu'on va faire place par place.
Oui.
Merci. Et qu'on va commencer par la dernière position de notre classement. Vas-y, Étienne, ça laisse aller.
Moi, en dernière position, j'avoue que j'ai pas très hésité. Là, je suis allé avec le Drakkar de Bécamo. Balance Drakkar en plus, là, leur entraîneur-chef qui a démissionné là, vendredi passé là, à deux jours du camp, ça fait parler. Puis aussi qu'ils sont en reconstruction. Laissez juste moi trouver les notes du Drakkar. Oui, ils sont en reconstruction. Ils ont encore des deux très bons joueurs, là, je pense, là, avec Nathan Légaré, là, qui peut être dans les top marqueurs de la Ligue cette année, et Marizier Ortiz. Mais comme ils sont en reconstruction, est-ce qu'ils vont les échanger? Je sais pas.
Petite nouvelle de dernière minute. Michael, la lancette vient de tweeter. On m'indique que Vladislav Kotkov des Seigneurs.
Kotkov
des Seigneurs sera transgé au Sea Dogs de Saint John dans les prochaines heures. Chicoutimi obtiendra des choix de 3e et de 10e tour. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, c'est un win-win là, d'une certaine façon, parce que Kotkov, lui, a déjà joué un match dans la Ligue professionnelle, la Ligue américaine aux États-Unis. Mais on ne sait pas si cette Ligue-là va jouer cette année. C'est pour ça que les Sea Dogs sont allés le chercher. Puis c'est pas super cher non plus. Donc s'il vient, là, les Sea Dogs, là, déjà qu'ils sont très sérieux là, pour gagner la Coupe cette année, là, il va être encore plus solide.
Ouais, t'as totalement raison, Louis-Philippe.
Écoute, oui, effectivement, c'est une belle police d'assurance pour une équipe qui semble jouer gros pour cette année. Dans les Maritimes, effectivement, il y a quelques équipes, là, dont Moncton, qui vont probablement perdre des plumes. Eux, ils voient l'occasion là, de finir premier et d'aller loin. Je pense pas qu'un gars comme Kotkov va nuire à ça, effectivement. Et oui, c'est vrai que ça n'a pas été payé cher là, pour un 3e et un 10e, je crois. Donc, c'est pas... Mais oui, le nerf de la guerre se situe effectivement avec la Ligue américaine et qu'est-ce qui arrivera avec ça. Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui dépendent de ça. Puis si Kotkov peut se rendre à Saint-Jean cette année au Nouveau-Brunswick, ça va être toute une machine de hockey.
En parlant du Drakkar, je vais revenir sur le Drakkar. On a su cette semaine que leur entraîneur-chef a donné sa démission. Moi, c'est une décision assez bizarre parce que les camps d'entraînement vont commencer demain ou lundi. Je me demande les gars, pourquoi il a donné sa démission à deux jours du début des camps. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ouais, il a évoqué des raisons familiales. À deux jours du camp, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Là. Est-ce qu'il aurait pu prendre cette décision-là avant ou est-ce qu'il était
en... C'est que tu pourrais donner ta démission deux, trois semaines avant le début des camps. Pas deux jours avant le début des camps.
Ouais, c'est sûr qu'on connaît pas tous les détails. Est-ce qu'il était en désaccord avec quelqu'un de l'organisation? Je sais pas. Mais... on va voir dans les prochaines semaines c'est qui va le seconder.
Toi Louis-Philippe, qu'est-ce que t'en penses de ce...
Effectivement, si on doit lire à travers ça, oui, il a évoqué des raisons familiales. Il n'aurait pas pu dire je débarque du bateau puis je vous laisse tomber. C'est pas comme ça que ça va marcher. Surtout si
le
gars il veut s'en trouver une job là, éventuellement là, comme entraîneur-chef. Sauf que oui, on ne peut pas nier non plus que la direction du Drakkar est un peu floue actuellement. Le conseil d'administration a complètement changé. On a parlé de reconstruction. Donc oui, pour Marizier Ortiz et Nathan Légaré, rien de moins sûr qu'ils finiront pas l'année ailleurs. Et dans le cas du coach, peut-être qu'il s'est dit, moi, recommencer là, pour 2 ans, alors qu'il reste justement 2 ans à son contrat. C'était peut-être pas la mission qui s'était préparée quand il s'est engagé là, avec l'organisation du Drakkar. Est-ce que ce que je dis est la vérité? Est-ce que ce que monsieur dit est la vérité? Fort probablement qu'on va s'appuyer sur les raisons familiales, mais je pourrais quand même pas tomber de ma chaise qu'il y ait un petit lien aussi avec tout ça.
Ah, c'est sûr.
On va revenir à notre classement général. On a un peu dévié sur notre sujet. Toi, Louis-Philippe, qui tu vois en 16e position?
J'avais mis... Là, je reste ça au clair avec les auditeurs. Nous sommes en pré-saison, nous aussi. Nous sommes des recrues, nous aussi. Nous allons faire des mauvais jeux, nous aussi. Et peut-être que mon premier mauvais jeu sera de dire que c'est Acadie Batters qui finira dernier. Peut-être qu'ils vont me surprendre. Je ne connais pas beaucoup l'équipe du Titan non plus. Je me prononce selon ce que j'ai pu déduire de tout ce que j'ai pu récolter comme information. Je pense aussi que Bécomo, là, ça sera pas une force non plus. Là, j'ai dû hésiter longtemps. Par contre, je pense que Légaré et Meurisorti, si dur avec le Drakkar jusqu'à Noël, devrait leur peut-être leur donner suffisamment de points pour finir devant Batters. C'est ce que moi j'en ai.
Pour moi, pour ma... oh, mon Dieu, ma symposion. On est à... Il y a 18 équipes! Il y a 18 équipes dans la LGMQ.
Oui, c'est ça.
On s'excuse. Comme Louis-Philippe dit, on est des recrues et nous autres aussi, on est en pré-saison. Pour ma 18e position, je y vais avec Louis-Philippe aussi, avec le Titan d'Acadie Batteuse. Parce que je ne crois pas que le Titan va avoir une très bonne saison encore. Si je regarde leur fil de l'année passée, en 64 matchs, 12 victoires, 40 défaites. Je ne crois pas qu'ils vont finir dans le top 15 de la LGMQ et ils ne vont pas participer aux séries cette année, encore une fois. Mais je crois que les meilleures années sont à venir pour le Titan dans les 2-3 prochaines années. Pour ta 7e position, vas-y, Étienne.
Il y a avec un 3 en 3 avec Batters, 3 fois de dernière position.
Ouais.
On va voir, vous allez peut-être être surpris d'où je place Batters, là, mais je vais y aller avec ma 17e position. J'ai les Wildcats de Moncton qui passent de 2e
ouais.
à 17e, oui. Selon moi. Là, parce que...
Oui.
Ils sont allés le tout pour le tout l'an passé là, avec une excellente formation, mais malheureusement pour eux, là, c'est vraiment très très dommage. Là. Mais ils ont même pas eu une chance là, de gagner la coupe. Ils ont même pas joué en série de toute façon. Donc il y a des départs très importants. Là. On note Kovanov, le gardien Rodrigue, l'excellent défenseur Mikhail Isaac, l'attaquant Pierre-Olivier Groux, ok, je vais le dire. Pelletier et l'heureux. Puis beaucoup de choix au repêchage aussi qui sont partis, là, donc il va falloir aller en rechercher. Là. Les points positifs là, à noter pour Moncton, là, il y a encore l'excellent défenseur Jordan Spence là, qui est dans les meilleurs défenseurs de la ligue et l'excellent attaquant Gabriel Fortier. Puis aussi une chose qui est à surveiller là, dans les prochaines semaines, quand on parlait de la Ligue américaine, est-ce qu'il va y avoir une saison cette année? Est-ce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va permettre un quatrième 20 ans? Ça pourrait aider Moncton. Mais Moncton, ils ont tellement perdu des bons joueurs que je les vois en 17e position.
Vas-y, Louis-Philippe.
Si c'est effectivement le cas, ça va être une autre victime pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Hein? Les Loups de mer qui pourraient vraiment s'envoler vers une saison incroyable en affrontant ces équipes de bas de classement-là. Oui, aussi, ça dépend. Le pivot sera toujours effectivement là, sur la Ligue américaine, sur le nombre de 20 ans que nous aurons. Dans la Ligue junior majeure du Québec cette année. Mais c'est sûr que ça va dépendre vraiment là, de qu'est-ce que M. Groux fera, qu'est-ce que tous les 20 ans finalement vont faire dans plusieurs formations. Et Moncton dépend énormément de ça. Vous avez parlé de Jordan Spence, et aussi le coach Daniel Lacroix là, qui disait qu'il allait donner beaucoup plus de responsabilités à Tristan DeJong ainsi que l'avant Jacob Hudson là, qui devront monter leur jeu de cran si les Wildcats ne veulent pas trouver la saison 3.
Pour moi, pour ma 17e position, je vois aussi Moncton en 17e position. Une équipe qui était en haut de classement l'année passée, qui va retomber en fond de classement. Plusieurs, comme tu dis, ont perdu plusieurs choix au repêchage, plusieurs transactions, mais je vois cette année que Moncton va redescendre et 17e position. Ce ne sera pas une équipe très forte cette année, mais comme je redis pour le titre, les futures années sont les meilleures. Vas-y pour ta...
Si je peux rajouter, Cédric, moi, j'avais mis Bécomo en 17e. J'avais mis un Moncton un petit peu plus haut que ça. C'était juste pour répondre à l'affirmation d'Étienne, mais moi, c'était juste pour signifier aux auditeurs, j'avais mis le Drakkar en 17e.
Excuse-moi, j'ai oublié.
Il n'y a pas de problème.
Pour la 16e position, vas-y, Étienne.
Oui, en 16e position, ben, j'ai encore une équipe des Maritimes, parce que pour moi, là, c'est la division la bleue. Clairement là, la plus faible cette année parce qu'il y en a beaucoup là, qui ont tenté de viser l'an prochain et qui ont perdu beaucoup. Là. de joueurs, là. Mais c'est une équipe un peu plus qu'on connaît un peu moins, je trouve, qu'on parle pas beaucoup, mais les Eagles du Cap-Breton, et non les Screaming Eagles, là.
Ouais. Les aigles ne crient plus.
Non, c'est ça. Donc, il y a une reconstruction en vue, là. Ils ont perdu des bons joueurs, ils ont perdu McCormick, Mendolizzi. Ben, ils ont pas nécessairement perdu, là, mais c'est des joueurs de 20 ans, là. Qui, je pense pas qu'ils vont revenir, puis qui tombent pro. Ils ont perdu aussi l'excellent attaquant russe Sokolov, mais il leur reste quelques bons joueurs. Dans les buts, il y a William Grimard, qui est un gardien qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, mais je pense que c'est un gardien qui peut être un très bon gardien. Il y a aussi le jeune joueur Ryan Francis, qui a fait 71 points l'an passé, puis c'est un gars qui a le potentiel d'être repêché en troisième round, là, selon les recruteurs. Donc, c'est les Eagles que je vois en 16e position. Dernière position pour accéder aux séries éliminatoires.
Louis-Philippe?
Ben, tu vois, dans mes études, j'avais pas vu que Egor Sokolov ne serait plus au Cap-Breton. C'est sûr que ça va venir jouer si c'est vraiment le cas. Là. Si tu m'assures que Sokolov n'est pas là, ben, c'est sûr que tu viens de perdre un gars de 80 points. Déjà qu'ils sont pas super nantis au Cap-Breton. Ils ont quand même une certaine direction qui s'en vont vers le bas, mais à quel point, c'est sûr que si tu commences à enlever les meilleurs pointeurs du club. Et oui, effectivement, Ryan Francis, là, qui avait 72 points l'année passée, va avoir une très belle saison avec beaucoup de temps de jeu. Donc, je répondais tout simplement. Moi, j'avais mis en 16e position mon équipe, le Cyanic de Rimouski. Je pense que ça va dégringoler beaucoup cette année. Je pense que la perte d'Alexis n'aidera pas. On a aussi perdu un gars comme Nicolas Gay. On a perdu Cédric Paré, Dimitri Zavgarodny. Ça va pas très bien à Rimouski. Ils ont été chercher Alexander Lazarev. Oui, on a deux futurs excellents joueurs en Isaac Béliveau, Zachary Bolduc, et les fans de l'Océanique le savent très bien, là. Mais si ces gars-là, s'il arrive une seule blessure ou quelque chose, ça va vraiment dégringoler parce qu'il n'y a aucune profondeur actuellement à Rimouski.
Ouais, pour moi aussi, je vois Rimouski en 16e position. Ils ont perdu un gros morceau à Alexis Lafrenière. Ça va être une saison difficile pour l'Océanique, malgré qu'ils ont M. Bolduc dans leur équipe. Mais je crois que l'Océanique retombe dans le trou, comme on dit. On a eu trois belles saisons. Là, on retombe dans les mauvaises années, mais dans...
J'ai jamais sous-estimé Serge Beausoleil, par contre. Il réussit toujours à tirer le meilleur de ses joueurs. Peut-être qu'ils pourront me surprendre, mais de ce que je vois actuellement, je crois que le CNI va finir assez bien.
Oui, parce qu'il y a une tradition gagnante dans les dernières années à Rimouski. Là.
Ah oui. Puis, il a même fait quelques surprises. Là. On se rappellera la finale contre les Sea Dogs là, avec Alex Belzil en tête, c'était pas prévu. Puis ça arrive souvent avec Serge Beausoleil qui réussit vraiment à faire un peu mieux que ce qu'on prédit de lui. Je préfère me mouiller puis le mettre plus bas puis être agréablement surpris que de mettre mes espoirs trop haut puis d'être déçu.
Oui, exactement. C'est un excellent coach.
C'est un excellent coach. Mais cette année, je crois que l'Océanique, l'ancienne équipe de Mr. Sidney Crosby, sera. En 16e position. En 15e position, Étienne, vas-y.
En 15e position, j'ai peut-être une surprise pour vous, mais j'ai Rouyn Noranda.
Pas pour moi.
Il n'y a pas énormément de départs, là, je trouve, cette année. Là. D'ailleurs, pour mettre quelque chose au clair, quand je parle des départs, là, c'est pas nécessairement sûr. Il y en a qui partent, c'est sûr, mais il y en a qui, c'est probablement qu'ils ne seront pas de retour. Donc, c'est une équipe avec beaucoup de... Quand même, il y a Alex Bocage, là, qui est un très bon attaquant, qui peut produire beaucoup. Il y a un Européen qui s'appelle Mikluka, qui peut produire dans la cinquantaine de points. Puis il y a un excellent gardien dans les buts, là, en Zachary Aymon. Mais est-ce qu'il sera de retour? Ça se peut fortement, en raison de l'incertitude de la Ligue américaine. Donc, si je les place en 15e position, là, c'est pas parce qu'ils sont mauvais du tout. Là. Ils ont connu... De 2016 à 2020, là, ils ont connu des excellentes saisons. Là. Mais si je les passe en dernier dans la division de l'Ouest, parce que c'est une très bonne division. Puis je vous rappelle que c'est des matchs seulement intra-division cette année.
Pour toi, Louis-Philippe?
Moi aussi, j'ai Rouyn Noranda. Pas facile pour Rouyn cette année. Hein, des bonnes équipes quand même dans la division. Là, qu'on parle de Blainville, Sherbrooke, il y a quelques éléments qui reviennent. Val-d'Or qui semble vouloir sortir du trou un peu aussi. Là. avec l'acquisition de Jacob Pelletier. C'est sûr que Rouyn-Noranda, c'est un peu plus pâle de ce côté-là. Ils iront là où Alex Bocage ira, effectivement. Il y a aussi un vétéran, là, Xavier Bouchard, la défensive, qui va aider la troupe là, de Mario Pouliot et de Pierre Bergeron. Ces deux hommes-là ont eu... On mettra pas l'accent là-dessus, ils ont certains problèmes personnels récemment, donc ils ont tout à gagner. Je crois qu'ils sont très motivés. Ils pourraient quand même faire un bon début de saison, mais à la longue, je crois que le manque de profondeur, encore une fois, va nuire au Husky.
Pour moi, les gars, je vais pas aller dans votre coin, je vais aller dans mon coin, et je vais aller avec les Olympiques de Gatineau en 15e position. Une équipe encore qui sera en bas de classement cette année. Une équipe jeune, mais je dirais que leur plein potentiel n'est pas encore arrivé. Et que je vois les Olympiques de Gatineau en 15e position. En 14e position, je te laisse aller, Monsieur Dumas.
Il y a beaucoup de gens qui déplacent quand même haut cette année, ça me surprend. Mais j'ai les Mooseheads d'Halifax en 14e position. Faut rappeler là, que l'an passé, ils ont commencé une reconstruction. Mais ils ont fait des très bonnes acquisitions cet été hein, avec Zachary Lheureux, qui est une des qui a un potentiel de sortir première ronde au repêchage de l'NH 2021. Il y a Eliott Desnoyers aussi, qui est un excellent attaquant. Puis il y a un Européen aussi là, qui m'intrigue beaucoup, en Attilio Biasca. Faut dire que les Mooseheads, ils ont une très bonne réputation là, dans les dernières années. Là, pas dans les dernières années, mais depuis le début de leur histoire de repêcher. Là. Au repêchage européen, d'habitude, là, il y en a des très bons qui sortent là, fait que j'ai confiance que Attilio Biasca va connaître une très bonne saison. Il y a aussi deux gardiens. Dans les buts, c'est très très solide. Là. On a Alexis Gravel, on a aussi McLaren. Il va sûrement y avoir une transaction là parce que c'est deux gardiens de 20 ans, là, si je ne me trompe pas.
J'avais cru voir que Gravel allait partir. Je sais pas si je peux pas te promettre ce que j'avais pris ma source. Il me semble que j'avais vu que Gravel allait partir. Mais ouais, si c'est pas le cas, effectivement, il y aura une bagarre.
Moi aussi, j'avais vu que Gravel allait partir, mais je m'attendais à ce qu'il parte honnêtement au repêchage. Là. Mais il est jamais parti, donc on va surveiller ça au camp. Là.
D'accord.
Je peux pas croire qu'un des deux ne sera pas transigé. Là.
Ben et non, en défense... c'est sûr. T'as de la congestion, puis tu vas aller vers l'avant, t'auras pas le choix. Là.
Non, c'est sûr. Tu peux pas en garder deux de 20 ans. Ça prend trop de place. Il y a aussi à la défense, il y a l'excellent défenseur Justin Baron qui devrait sortir première ou deuxième ronde au repêchage cette année. Là. C'est un très, très bon défenseur. Mais je vois quand même, à cause de leur jeunesse, ils ont quand même eu un très bon repêchage, mais ils sont trop jeunes encore. Halifax va finir 14e selon moi.
Louis-Philippe?
Moi, j'avais mis en 14e position là, les Wildcats de Moncton pour toutes les raisons qu'on a évoquées antérieurement. Cependant, je mets quand même le bémol sur l'avenir de la Ligue américaine de hockey, tout dépendant si les 20 ans veulent aller en Europe, s'ils iront jouer au Sud. Mais advenant qu'il n'y aurait aucune de ces deux options-là et que quelques-uns reviennent, ben évidemment, le Wildcats de Moncton devrait finir un petit peu plus haut que 14e. Pour ce qui est, j'aime bien commenter toujours un peu là, parce que le choix de Étienne, c'est bon enfant. Mais effectivement, Zachary Lheureux là, et Attilio Biasca, le Suisse, ainsi que Senna Peters là, d'Autriche, là, devraient faire écarquiller quelques yeux quand même là, dans une division qui s'en vient un petit peu pauvre.
En 4e position, je vois les Remparts de Québec, une équipe. L'équipe à Mr. Étienne, une équipe très jeune. Moi, je crois, peut-être de lancer une grosse bombe, mais je crois que c'est la dernière année.
Oui.
Ça va être la dernière année de Patrick Roy derrière le banc des Remparts de Québec. Je crois que.
Oh boy.
Je crois que ça va être sa dernière année. Je veux rien lancer. Je veux rien faire de rumeurs. Mais je crois que dans l'année 2022-2023, M. Patrick Roy s'en vient avec le Canadien de Montréal.
On l'a entendu souvent, cette
Longshot. Oh. Écoute, en tant que fan de Patrick Fini, c'est sûr qu'on aimerait bien ça. Est-ce que Patrick va vraiment quitter Québec? Est-ce qu'il a envie des feux de la rampe de la Ligue nationale encore? Rien de moins sûr, on verra.
Je crois que oui.
Je vous rappelle que les Remparts visent même
la Coupe Memorial.
Haut de la Coupe Memorial l'an prochain, donc je vois absolument pas Patrick Roy quitter, alors que je vous rappelle aussi qu'il a quitté en 2013, là, 2 ans avant que son équipe soit haut de la Coupe Memorial. Mais là, je pense pas, là, il s'en vient tellement avec une bonne équipe.
Ben, j'ai lu récemment qu'il disait que, sans même savoir que Québec allait pitcher là, pour la Coupe Memorial, parce que Québec semble vouloir postuler là, pour à l'obtention de la Coupe, que Patrick avait déjà visé vouloir gagner les grands honneurs l'année prochaine, là, en 2021-2022. Est-ce que ça va se réaliser? C'est une autre histoire. Je crois pas que Patrick est prêt à partir tout de suite.
Ben, c'est pas tout de suite, mais moi, je crois que ça va être sa dernière année derrière la bannière remparts de Québec.
Ah, tout se peut.
En 13e position, Étienne.
J'ai l'équipe à Louis-Philippe. J'ai l'Océanique de Rimouski en 13e position. Après
des plus généreux que moi.
Oui. Après des gros départs d'Alexis Lafreniere, de Zav Gorovny, de Colton Ellis aussi, que je pense que tu n'as pas mentionné. Mais d'après moi, Colton Ellis, d'ailleurs, c'était...
Je ne l'avais pas mentionné à cause de Creed Jones, qui est quand même un bon gardien.
Ah oui, absolument. Colton Ellis, d'après moi, c'était honnêtement, là, je pensais que c'était le meilleur gardien l'an passé, là, selon moi. Là, ça avait été Mandelizzi qui avait été nommé, mais selon moi.
Oui, Colton les blessures Ellis... l'ont ralenti, puis l'année d'avant, il avait été fumant, on va se le dire. Là, j'avais écouté toutes les parties, puis il en a sauvé quelques-unes. Là. C'est sûr que son départ sera pas. Ça va laisser quelques traces, mais on est quand même chanceux d'avoir Creed Jones autrement, là, ça serait vraiment plus compliqué que ça.
Ah oui, parce que. Colton Ellis était excellent, mais Creed Jones, qui avait joué le début de l'année un peu plus difficile avec les Olympiques de Gatineau, avait été transigé au fait à Rimouski, puis il avait été encore une fois excellent.
Oui.
Il y a encore des très bons jeunes cette année avec Zachary Bolduc, Isaac Béliveau aussi.
Ouais, Béliveau, là, c'est une belle surprise pour l'Océanique. On va se le dire, là, on voyait un beau potentiel pour Béliveau, mais on pensait jamais qu'elle allait faire la production qu'il a eue l'an dernier, là. Surtout avec l'équipe, on va se le dire, avec l'équipe pactée que l'Océanique avait. On pensait pas que ça allait être Béliveau qui allait sortir de là.
Ah oh, ouais, absolument. Il y a aussi le vétéran Andrew Coxett qui devrait faire une différence cette année.
Va-t-il finir l'année à Rimouski? Ça fait partie des choses aussi. Les 20 ans de l'Océanique seront-ils transjugés? Je vois ça beaucoup venir. Je pense que Beau Soleil va se départir de ses 20 ans, mais probablement plus à la période des fêtes. Aussi, faudrait mentionner qu'il ne noircit pas beaucoup la feuille de pointage, mais Christopher Innes, qui est rendu avec les Sea Dogs de Saint-Jean, était à plus 24 l'année passée. C'est un bon défenseur défensif, puis ça va finir par paraître tôt ou tard sur l'échiquier de Serge Beau Soleil.
Ouais, quelle défensive que Saint-Jean a.
Oui, c'est épouvantable.
Mais comme je dis, avec les grosses pertes chez l'Océanique, il y a une reconstruction en vue. Là, donc, on va finir 13e, mais pas trop bas, pas trop haut non plus.
Louis-Philippe?
Oui, moi, en 13e position, j'avais mis... Oh, là, ça va peut-être surprendre tout le monde. J'avais pris les Cataractes de Shawinigan.
Oh,
qui, d'ailleurs,
mon Dieu!
Ils viennent de perdre leur capitaine. Hein. Je sais qu'ils ont un nouvel entraîneur qui est un player's coach, qu'on dit, Ron Chulis, je ne sais pas comment qu'on le dit. Cet entraîneur-là va probablement essayer d'apporter de la vie. Gordy Dwyer, c'est Gordy Dwyer. On l'a connu comme joueur, on l'a connu comme goon, on l'a connu comme coach. Il était pas bon dans aucun des trois domaines, sans être méchant envers M. Dwyer. Ça n'a pas marché, tout simplement, à Shawi, là, vraiment. Et peut-être que ça va porter un vent très cher, un nouvel entraîneur, mais je pense qu'il y a des départs qui vont faire mal à l'organisation. Peut-être que ça va être un genre de pivot là, pour les Cataractes. Je pense qu'ils vont baisser d'un cran.
C'est assez fou ce qui se passe dans les dernières années avec les coachs là, à Shawinigan. Il n'y a tellement pas de stabilité. On la recherche encore, cette stabilité-là, puis il va falloir l'avoir parce que les Cataractes s'en viennent avec une grosse équipe.
Oui, c'est ça. Effectivement, au niveau potentiel, je crois qu'ils ont du potentiel. C'est juste de mettre tout ça ensemble et d'aller de l'avant. Je ne sais pas si ça va marcher avec le nouvel entraîneur. Je mettais un bémol. Je m'étais dit peut-être que le temps d'adaptation va faire qu'il n'y aura pas une grosse saison. Ils affrontent beaucoup de bonnes équipes, je répète, dans la division Ouest. Ça sera pas non, c'est dans la division Ouest hein, qu'on est cette année. C'est ça. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, ça sera un peu plus haut que ça. Comme je vous dis, c'est un move de recrue de ma part d'avoir mis ça là. C'est un guess. Je ne le sais pas. Ça, le temps me le dit.
On sait jamais.
Pour ma 13e position, avec leur nouvelle lumière dans leur arena, j'ai placé le Drakkar de Bécomo en 13e position.
Quand même très généreux avec le Drakkar.
Ah oui, très...
Ouais, c'est très généreux.
C'est moins généreux que le Drakkar. Ils vont pas avoir une bonne saison, mais ils vont pas avoir aussi une mauvaise saison. Ça va être une saison, je pense, qui va être sous la barre des 500. Une équipe jeune... Une bonne équipe, mais je crois que cette année, ça sera pas La meilleure année du Drakkar de Bécamo. En 12e position, Mr. Dumas.
J'ai les Olympiques de Gatineau après un repêchage incroyable, puis un remaniement là, du deuxième étage là, du côté du stade des Olympiques. Un nouveau coach, un nouveau OFAC l'an passé, un nouveau directeur général, ouais. Des nouveaux actionnaires.
Ouais, mais moi je crois que comme je crois qu'il faut laisser le temps aux jeunes de se développer dans la GMQ. Je crois pas, je te laisse aller, mais je crois que t'es quand même généreux 12e parce que je pense que je dirais que l'année prochaine, les Olympiques vont être vraiment forts, mais je pense que cette année, il faut laisser le temps au premier choix de se développer dans la LHGMQ. Ça, c'est mon opinion. Je te laisse aller.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est une équipe qui est très, très, très jeune, là, mais qui a énormément de talent là. À l'attaque puis à la défensive. Là. À l'attaque, on a Véro, on a Savoie. Qui a ces deux saisons là, qui ont été repêchées dans le top 5 en plus. Là. Puis l'an passé, on a repêché là, Zachary Dean, qui a un potentiel en plus de sortir première et deuxième ronde au repêchage LNH 2021. Là. Je pense qu'il va. Il pourrait compter dans les 70 points cette année, ça ne me surprendrait pas. Puis à la défense, on a repêché l'excellent Tristan Luneau. Là. Est-ce qu'il pourrait connaître une bonne saison? Je pense qu'il va connaître une bonne saison, mais ça va lui prendre un certain temps d'adaptation aussi. C'est pour ça que je vois Gatineau 12e, beaucoup de talent, mais encore un peu jeune.
Vas-y, Louis-Philippe.
Moi, j'avais mis, avec une autre stupéfaction, probablement pour la plupart d'entre vous, les Voltigeurs de Drummondville. Je les trouve jeunes un peu. Je trouve encore une fois qu'ils... Tu sais, tous mes choix se sont basés sur le fait que la Ligue américaine ne jouerait pas. J'ai pas eu le choix, je suis allé avec... C'est ce que je trouve que ça sent actuellement. Peut-être que j'aurais tort à ce moment-là, on n'aura pas le choix de changer nos notes là, à partir de la saison régulière. Mais de là, aujourd'hui, 29 août, ce que je vois, c'est pas d'Américaine. Donc, je crois qu'il y a plusieurs équipes dans la division Ouest qui vont être fortes, puis ça va nuire à Drummondville. Par contre, l'avenir est beau à Drummondville. Je connais bien Philippe Boucher. Oui. On le connaît bien. On sait comment il peut monter des belles équipes rapidement. Je ne sais pas si ça va être pour cette année, mais assurément que ça va être à suivre pour les Voltigeurs.
Pour moi, ma 12e position, j'ai mis les Cataractes de Shawinigan. Moi aussi, je suis dans les recrues, mais je crois que cette année, comme tu dis, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont passés par là dans les dernières années. Je crois que cette année, ce sera une moyenne saison pour les Cataractes. Mais je crois qu'ils vont être en 12e position. En 11e position, je te laisse aller, Étienne.
Ben, je vais vous surprendre là, parce que vous avez mis cette équipe-là, si je m'en souviens bien, les deux derniers. Je vais avec le Titan, la quasi-batteuse. Mais après deux ans, dernier, c'est le temps de remonter. Là. Ils n'ont pas beaucoup de... Ils n'ont pas vraiment de vedettes, entre guillemets, là, à l'attaque, là, ni à la défensive. Par contre, dans les buts, ils ont repêché Yann Bednar, qui est un top espoir de gardien au prochain repêchage.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ça va être très solide là, de ce côté-là.
Ils vont en avoir besoin contre Saint-Jean, entre autres.
Oui, absolument. Une très bonne attaque. Là. Mais aussi, là, ce que je vous rappelle qu'ils ont gagné la Coupe Mémoriale en 2018, puis qui les voyait gagner la Coupe Mémoriale cette année-là?
Non, effectivement.
Pas énormément de gens. C'est un petit marché. Les petits marchés sont reconnus aussi pour avoir des équipes qui travaillent beaucoup, beaucoup. Donc, il n'y a peut-être pas... Peut-être pas de vedette, là, mais ils vont travailler fort cette année, puis je pense qu'ils vont finir en 11e position.
Louis-Philippe?
Ben, j'avais les Remparts de Québec. Je pense qu'on va sortir du trou sans être en tête pour l'instant à Québec. Un bel avenir hein, avec Cormier, Malatesta, Pierre-Éric Dubé, Patrick Roy s'en va dans la bonne direction avec cette équipe-là. Ça n'a pas été facile l'an dernier, t'es très très jeune. Cette année, on va prendre un peu de pic, on n'est pas encore rendu là, on va monter dans le milieu de peloton. Est-ce qu'ils vont vraiment finir 11e? Je me garde une réserve, c'est ce que pour l'instant, je les ai mis là. Je serais pas surpris qu'ils montent peut-être un petit peu plus haut que ça. Mais ça sera pas la tête, ça sera pas la queue, ça va être le milieu de peloton pour les Remparts.
Est-ce que c'est parce que je suis fan que je les vois plus dans le top 10? C'est pas.
Ah oh non, ça se peut très bien. Comme je t'ai dit, là, c'est des bouffes de recrues. Je regarde ça d'un œil froid. C'est pas parce que j'aime pas les Remparts. C'est pas parce que je suis un fan de l'Océanique. Je pense qu'il faut avoir un gap entre la dernière et la première position. Je pense que les Remparts vont se mettre dans le milieu.
Pour moi, pour ma 11e position, je vois l'équipe de Louis Robitaille, les Tigres de Victoriaville. une équipe avec un très bon gardien. Quand même une bonne défense.
Deux très bons gardiens en plus.
Deux très bons gardiens. Une attaque qui laisse à désirer. Une bonne défense. Je crois que les Tigres cette année vont avoir une bonne saison. Mais je les mets quand même en 11e position parce que j'ai pas des grandes attentes.
J'étais trop difficile avec les Tigres. Et on a quand même pas pire attaque. On verra. Je sais pas si tous les... Est-ce que les Russes reviennent d'abord? Est-ce que tout.
Oui.
Oui, bon, ben s'ils reviennent tous à ce moment-là, que Brooklyn Kalnikov avec Abramov et Serdiouk, je crois qu'ils vont faire la pluie et le beau temps dans le junior majeur cette année.
C'est Serdiouk et Abramov, en fait. Je pense, là. Ah,
ben okay. Oui, ils ont été chercher Brooklyn Kalnikov aussi.
Ouais, ils ont. Je sais pas, on dirait qu'ils ont comme trois Européens. Il y en a un ouais. Là-dedans qui n'est pas Européen. Je sais pas.
Ah non, c'est ça. Brooklyn Kalnikov est né à Québec, mais il a un nom d'origine européenne.
Ah, c'est pour ça, ouais. Vous allez voir quand je vais parler des Tigres tantôt.
Ok, moi je replace l'équipe de M. Robitaille en 11e position. On est rendu maintenant dans le top 10 et on est en la 10e position. Oh. Étienne.
Tantôt, Louis-Philippe, tu parlais de Drummondville, tu disais que tu avais peut-être fait une erreur. Ben, je suis quand même d'accord avec toi. Moi, j'ai vu en 10e position cette année une équipe qui est bien balancée entre les jeunes et les vétérans. Là, quand on parle de vétérans à Drummondville, on pense évidemment à Xavier Simoneau là, qui va se batailler pour dans probablement le top 10, top 5 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Là, il est capable d'aller chercher les 80, les 90 points. Il est très, très, très fort. Là. On l'a vu dans les dernières années. Il y a
Christian Simon Nicole là, qui
ah oui, en plus.
Absolument. Oui, ainsi, puis je devrais rajouter pour toi, puis je te laisse aller après, le frère de Dawson Mercer, Riley Mercer, qui, si elle a le même genre de talent que son frère, devrait faire écarquiller quelques yeux là également. Là.
C'est un gardien de son côté.
Oui, effectivement, c'est un gardien de but. On parle quand même de talent overall, je ne sais pas. Ouais.
Une famille d'hockey.
Oui, c'est ça, exactement.
Parlant de gardien à Drummondville, on a Lapena, qui est un gardien qui est très, très solide. Je pense pas que ça va être un problème de ce côté-là. L'an passé, j'ai oublié, mais bon. On a un très bon coach aussi en Hartley, là, qui est... Est-ce qu'il a été nommé coach de l'année l'an passé? Je m'en souviens même pas.
Bonne question. Cette information-là pendant que vous continuez.
Ouais, ok, bonne idée. Il y a aussi, ils sont sortis de, honnêtement, je pense que c'est le deuxième meilleur repêchage l'an passé. De cette année, je veux dire, du côté de Drummondville, ils sont allés repêcher Woodward et Côté, qui était supposé sortir dans le top 10 en première ronde, mais qui est sorti en deuxième ronde. Donc, c'est peut-être un vol, je sais pas. Ils ont une très belle avenir en tout cas, puis je pense qu'ils vont quand même finir 10e cette année.
C'est l'entraîneur Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke.
Ah, ok, c'est ça, ouais. Mais il était un candidat, puis on se cachera pas là, c'est un très bon coach.
Pour moi, je vois aussi les Vultures de Drummondville.
On est d'accord.
On est d'accord. L'équipe qui évolue au centre Marcel Dion, je crois que ça sera une équipe du top 10. J'ai rien à dire qu'est-ce qu'Étienne a dit. Je suis à 100% d'accord qu'est-ce qu'Étienne a dit. Et que Louis-Philippe, ta 10e position?
Oh, ma 10e position, ben écoute, je ne peux pas les mettre plus haut que ça non plus. Je veux dire, je crois qu'ils vont bien se relever. J'ai mis les Moussettes d'Halifax. J'ai foi aux jeunes, j'ai foi à cette organisation-là, un peu comme les Remparts. Peut-être que je les ai mis un peu trop haut, peut-être que j'ai mis Québec un peu trop bas. Je pense que c'est le même genre d'organisation qui se relève toujours assez rapidement, qui repêche toujours bien, qui développe toujours bien. C'est également un cas là, qu'on va partir de la queue pour monter la tête assez rapidement, mais il va falloir quand même un gap entre les deux. Je les ai mis à mi-chemin.
On va pas se cacher aussi, là. C'est un gros club. Puis j'avais oublié en plus de mentionner pour Halifax, tantôt on a repêché deux joueurs en première ronde, je crois, Vidicek et l'autre, j'ai... Laissez-moi chercher un instant. Vidicek en première ronde et aussi... Je l'ai pas marqué, mais il y a un autre joueur qui a été repêché en première ronde. C'est deux joueurs qui étaient supposés aller jouer aux États-Unis l'an prochain, mais que l'organisation a réussi à convaincre. Là, donc, la reconstruction va très vite à Halifax quand même.
Une très bonne ville d'hockey.
Ouais, puis une superbe arena arena digne de la Ligue américaine.
Ah oui, vous avez été à l'arena d'Halifax?
Non.
J'ai jamais eu la chance d'aller au Vimto.
Non,
mais c'est une des plus grosses de la ligue aussi.
Oui, oui. Avec la somme Vidéotron, je pense que c'est la deuxième ou la troisième plus grosse de la ligue.
Oui, OK. Ah okay. Oh, oui, ça, je le savais. J'ai toujours rêvé d'y aller. Ça n'a pas donné.
C'est pas à la porte non plus.
Ça n'a pas donné. C'est pas à la porte.
Non, mais j'ai resté longtemps à Rimouski. C'est un peu plus proche, sûr, que maintenant, je réside à Montréal.
Ah, c'est vrai, oui.
Faudrait quasiment que je prenne l'avion.
On est rendu dans le top 9. Vas-y, Étienne, te laisse aller avec ta 9e position.
Je suis allé avec Victoriaville. Est-ce que vous les avez sous-estimés? Je sais pas. Mais même moi, honnêtement, je les trouve trop haut. Parce que c'est une équipe qui est à maturité. Il y a énormément de 19 ans dans cette équipe-là cette année. C'est pour ça que je pense que, tu sais, on est après saison, on n'a pas les formations finales. Est-ce qu'au fait, cette équipe-là va acheter? Je pense que oui, là, parce qu'ils ont un duo d'Européens là, vraiment, vraiment très bon avec Abramov et Serdiouk là, qui peuvent se trouver dans les meilleurs attaquants de la ligue. Là, si ça peut compter dans les 60, 70, 80 points. Là. Fait que de ce côté-là, à l'attaque, ça va bien. Puis à la défensive aussi, ça va bien. Dans les buts, ça va très bien. Donc c'est une équipe qui est bien balancée.
Louis-Philippe?
Je suis d'accord avec toi au niveau de Victoriaville, mais c'est pas eux que j'ai mis, mais je suis d'accord qu'ils ont de la profondeur et de l'âge, de l'expérience, ils ont de tout un peu partout. Moi, je l'avais mis au 9e rang, j'ai mis les Islanders de Charlottetown, je les ai mis un petit peu plus bas, même s'ils ont un bon gardien de but, même s'ils ont quand même encore une bonne équipe, ça sera pas facile dans cette division-là. D'ailleurs, je tiens à dire, j'ai mis quand même 4 équipes des Maritimes dans le top 10. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir des fans dans les estrades. Ça va probablement certains soirs les aider. je veux dire, à un moment, ils vont se sentir encouragés. Je sais, ça a l'air niaiseux, mais je veux dire, entendre les mouches voler, là, ça va être épouvantable dans certaines parties. Tandis qu'eux, ben, ils vont se sentir probablement un peu propulsés là, par l'appui des peu nombreux, mais quand même présents fans qu'il y aura à ce moment-là dans l'aréna. J'ai guessé Charlottetown plus bas. Encore une fois, c'est très prématuré. Nous verrons ce qui sortira de là.
Pour moi, pour ma 9e position, je vois l'équipe qui évolue au Scotiabank Center, les Mooseheads d'Halifax.
Oui.
Une équipe jeune. Qui est entraîné par un très bon entraîneur en Jean-Jacques Daigneault. Un entraîneur que j'aime bien qui a entraîné les Canadiens de Montréal en tant qu'adjoint pendant plusieurs années. Une saison.
Comme Patrick a gagné la Coupe Stanley aussi.
Ouais.
Ça aide toujours
aussi. Oui, c'est beaucoup d'expérience.
Je crois que cette année, les Mooseheads vont avoir une belle saison. Avec Jean-Jacques Daigneault. Jean-Jacques va, je pense qu'il va donner une belle expérience à ses joueurs. Et je les vois en 9e position.
Maintenant, si je peux ajouter, on n'en parle pas, là, mais les Mooseheads là, ont le choix au repêchage de la première ronde des Moncton de Wildcats. Des Wildcats de Moncton, désolé, qui devraient finir dans le bas du classement. Là.
Mais
dans,
oui, dans, ah oui, c'est vrai.
7-18e, donc il y a un très 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 bel avenir.
Ah, ils ont fait un coup fumant quand même. Là. Je veux dire, ils ont perdu des bons vétérans l'année passée, les Mooseheads. On allait chercher des bons choix et Zachary Lheureux. Ils ont sauvé du temps.
C'est un vol complètement, nous, on s'en souvient de la transaction là, qui envoyait McIsaac, qui envoyait Grou.
Puis malheureusement pour eux, ça n'a rien donné, mais ça, c'est le cas pour toutes les formations qui avaient misé pour l'an dernier. Ouais, mais aujourd'hui, ça vaut beaucoup d'attaque.
Ouais.
On est parti pour la 8e position. Étienne?
Je suis allé avec mon équipe favorite, je suis avec les Remparts de Québec en 8e position. C'est une équipe qui est encore très, très jeune, mais qui a beaucoup de talent. Un instant, je retrouve mes notes. Oui, OK. À Québec, on a l'excellent James Malatesta, on a Théo Rochette là, en premier centre. Est-ce qu'on a finalement réussi à repêcher des Européens qui peuvent faire la différence? Parce que on sait que ça fait 5 ans que c'est assez ordinaire à ce niveau-là. Donc on a Marvala, on a aussi Sivonen. Marvala qui est un joueur qui est, on dit peut-être 3-4e ronde au repêchage 2021. J'ai vraiment très hâte de le voir.
Il est comparé à Mikko Rantanen. C'est rien de moins.
Ah oui, en plus.
Ouais.
Ah, c'est excellent.
Oui, il ne faut pas aussi oublier là, que vous avez été chercher Evan Nosey, qui est un point d'interrogation actuellement avec son attitude qu'on dit, mais je crois que c'est Patrick Roy en a vu beaucoup d'autres, là, des attitudes. Hein. Je pense qu'il a réussi à convaincre ce joueur-là. Les remparts pourraient surprendre, effectivement.
Ben, c'est pas nécessairement son attitude, là. C'est surtout qu'il était. Qu'il n'a pas voulu aller jouer pour dans une petite ville.
Comme plusieurs, hein, comme McKinnon ne voulait pas aller jouer à Bécomo.
Ça a souvent été un problème.
Oui, c'est ça. Ça fait partie de la réalité, malheureusement, du junior major.
C'est un très, très bon défenseur. J'ai hâte de le voir jouer dans la GMQ aussi. Puis dans les buts, c'est quand même assez solide. On est allé chercher, ils sont allés chercher le gardien de 20 ans, Thomas Sigouin du Phoenix de Sherbrooke. Pas beaucoup d'expérience, là, mais ce qu'on a vu de lui est quand même très solide. Et le deuxième gardien.
J'aurais une question pour toi en tant que fan des remparts. Je ne sais pas si ce sera l'éclosion cette année de Yu Sato, le joueur d'origine japonaise. Je sais que l'année passée, ça va être facile, seulement à 10 points en 39 matchs, mais je me demande si ça va s'améliorer. J'ai essayé d'avoir des informations sur ce joueur-là, j'en ai pas beaucoup, je l'ai pas vu jouer, donc c'est pour ça que je te posais un peu la question si toi, tu avais quelque chose sur lui.
Il est plus avec les remparts, justement. Il est rendu dans la USHL. Non, ça, c'était, il y avait le statut d'Européen, là, de joueur import, okay. Là, même s'il était japonais. Là.
OK, c'est ça que je peux pas faire.
Non, ça avait vraiment pas marché. Puis c'est pour ça que je disais que dans les dernières années, les Européens, ça marchait pas fort fort. Mais cette année, on a espoir. Donc, je les vois en 8e position, encore très très jeune, parce qu'ils ont énormément de 17 ans, mais ils ne manquent pas de talent, du coup.
Louis-Philippe?
Oui, je prends quelques secondes de trouver mes notes. Bon, c'était la dernière. J'ai mis l'équipe de Cédric en 8e position. J'ai mis l'Armada.
L'Armada, tu vas être content parce qu'on on va être d'accord.
C'est ça. J'ai vu il y a 2 ans. J'ai été les voir contre Lafrenière. J'ai essayé d'aller voir Alexis. J'ai été à Gatineau. J'ai essayé d'aller voir Alexis Lafrenière dans les places qui étaient les plus proches que je pouvais. J'avais le temps, puis j'avais l'argent, puis c'était un bon timing pour aller le voir. J'ai eu la chance d'aller voir contre Blainville-Beaubriand. C'était pas facile il y a 2 ans, mais je regarde la formation cette année. Là, on parle de Yaroslav Likachev, on parle de Luke Edmond, Simon Pinard, Tourigny. On commence à s'approcher de quelque chose du côté de Blainville-Beaubriand. Je sais pas si la perte de Joël Bouchard retarde un peu l'ascension de l'équipe. C'est ce que je mets encore un bémol là-dessus. Je veux dire, il a tellement mis son empreinte sur l'équipe de l'Armada, Joël, ça doit pas être facile non plus de recommencer avec un nouvel entraîneur, d'un nouvel environnement. Par contre, c'est des jeunes joueurs, c'est plus son ancienne gang. Je me dis que Blainville, ça reste une bonne organisation. L'Armada veut toujours gagner, puis je pense que ça va monter le jeu d'un cas.
Moi, l'an passé, j'ai trouvé qu'il y avait surpris. Il ressortait de... Oui... Dans l'histoire, mais oui, ils ont quand même surpris l'an passé, ils sont quand même finis haut. Là. Ils avaient joué une très bonne saison avec leur nouvel entraîneur.
Ouais, moi aussi, je vois très, très d'accord avec toi, Louis-Philippe. Je vois en 8e position. L'équipe qui est pionnée par Blue Futureson sera une équipe à surveiller cette année avec un.
Je peux vous l'annoncer, là, je les ai haïs, l'Armada, là. C'est correct, là. Mon histoire de haine avec l'Armada est terminée, mais dans les années où ce que l'Océanique et l'Armada sont pris en série, là, mon Dieu que c'était pas facile d'apprécier cette équipe-là. Puis, j'ai fait la paix.
un gardien de passé qui a été excellent, qui était le second d'Émile Samson, Olivier Adam, un jeune de 18 ans qui va avoir une bonne saison. Le capitaine, mon capitaine Luke Edmond, avec Antoine Demers, qui a eu une excellente saison l'année passée, avec un Blake Richardson, un Simon Pinard, un Thomas Lacombe, qui vont être à son plein d'occasions, et un quatrième trio avec Zachary Roy, Tommy Bouchard, qui vont être assez intéressants à voir. Ça va être très spécial pour moi en tant qu'abonné de saison de ne pas aller au centre d'excellence par Rousseau. De ne pas aller les voir avant les matchs, mais ça va être. On va s'habituer. Et pour moi, je vois Blainville-Beaubriand en 8e position. Et j'espère ne pas me tromper. En 7e position, Étienne.
Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais je vais continuer sur le sujet. En 7e position, j'ai l'Armada de Blainville-Beaubriand. J'ai fait le classement général assez vite là. Au début, je les voyais dans le top 5, mais avec les matchs intra-division seulement, j'ai dû les reculer un petit peu parce qu'il y a tellement beaucoup de talent là, dans la division ouest. que je les vois en 7e position, Luke Hanneman, qui a connu une excellente saison l'an passé avec 75 points. Oui. Likachev aussi.
Il va
aussi.
Faire 100 points si tout va bien.
Ah, c'est bon, ça me surprendrait pas. Puis, je peux... Oui. Likachev, après une saison décevante à Gatineau il y a 2 ans, il avait explosé en français avec l'Armada. Là. Il a trouvé son équipe, là, en guillemets. Et il y a Bykov aussi, qui est un très bon attaquant, je sais pas sa nationalité, attaquant européen qui pourrait faire dans les 50 points. Donc, je pense que l'attaque est solide. Dans les buts, c'est solide avec Olivier Adam aussi. Il y a la défense, il y a peut-être un peu plus de points d'interrogation, mais je suis certain qu'on va trouver un bon défenseur.
Lou Philippe?
Moi, j'ai mis... Écoutez, là, encore une fois, j'ai beaucoup de notes pour eux. Là, je fais notes quelques secondes pour les Olympiques de Gatineau. Les Olympiques de Gatineau, ils ont beaucoup, beaucoup de 16 ans. Ils ont beaucoup de vétérans aussi qui reviennent, sauf Tyler Boivin. Donc, je pense qu'avec Luno, là, Véro, Savoie, Warren, cette équipe-là avec Zach Dean, comme tu disais tantôt, Étienne, Evan McKinnon,
ouais.
ça va être une équipe très bien rodée. Maintenant, est-ce que cette équipe-là va arriver à maturité complètement cette année? C'est ce que j'ai parié. Pas nécessairement qu'il va arriver à maturité, mais je crois qu'on va déjà voir une bonne première saison de ce troupeau-là. Cependant, ça va y aller comme les jeunes qui sont très prometteurs vont aller aussi. Là.
Ouais, il y a quoi cette année? Il y a 4-16 ans, je pense.
Ouais, c'est ça.
Plusieurs 17 ans. Ça me fait penser au remport de l'an passé. Ça va être très, très jeune, ça va être plus difficile, mais il y a beaucoup, beaucoup de talent.
Ben, leurs vétérans reviennent tous. C'est pour ça que je me suis appuyé sur ça. Ouais, aussi, il ne faut pas négliger le fait que jouer à l'Arena Baribault ou jouer au nouveau Robert Guertin, parce que l'ancien, finalement, on connaît, là, il y a beaucoup de problèmes pour l'Arena. C'est sûr que s'il y avait un nouvel Arena, tout neuf, tout beau, ça aurait été bien différent qu'avoir l'Arena Baribault, là, parce qu'actuellement, à l'Arena Baribault, de ce que j'avais lu, là, il faut faire des aménagements, il va y avoir des bureaux pour les coachs, un gymnase, un rangement de buts, une galerie de presse. Ça va faire un petit peu, ça va manquer de sérieux peut-être si c'est obligé de passer
Justement, sur ce sujet-là, l'Arena Baribault, je pense que c'est comme pendant la moitié de la saison, puis au mois de décembre, on retrouve le Bob Guertin.
Ben, il y a le ministre de la famille là-bas, hein, le ministre Mathieu Lacombe, qui avait mis de la pression, ainsi que Gilles Courteau, pour être capable là, de libérer Robert Guertin. Mais l'homme d'affaires, là, Gilles Desgagnés de Brigitte, qui a changé d'idée hier, qui a changé avant hier son fils d'épaule, qui a vendu à l'homme d'affaires Camille Villeneuve, là, qui est propriétaire d'édifice à bureau là, à Gatineau. Puis que là, à ce moment-là, ils ont dit que ça augurait très, très mal de changer d'aréna cette année. Puis je sais pas à quel point que ça va affecter le moral de l'équipe.
La relation amoureuse entre la ville de Gatineau et les Olympiques.
Là. Moi, je peux vous dire, en tout cas, j'ai été au vieux Robert Guertin il y a 2 ans, puis j'ai pogné la grippe parce qu'il faisait froid.
C'est très, très vieux.
J'ai même pas été voir le deuxième match de l'Océanique avec Lafrenière. J'ai laissé mes billets au McDonald's, je suis reparti chez nous. C'est pas la meilleure qualité d'aréna, fait que j'ose pas croire qu'est-ce que l'aréna Paribault peut apporter.
Non, mais heureusement, il va y avoir une nouvelle aréna pour
2021. Oui, ben oui, l'an prochain, tout ça va être du passé, effectivement.
Pour moi, je vois en 7e position, je vois les Alenda de Charlottetown, l'équipe qui va avoir des partisans dans les estrades. Mais comme Louis-Philippe a dit, je crois que ça va avoir un effet, que ça soit 250, 500. Et ça va être, il va avoir du bruit un peu, ça va motiver les joueurs. Une équipe assez jeune encore, pareil, cette année, avec un gardien, Jacob Crosby, qui va être intéressant à voir. L'équipe qui est pionnée par Jim Walton, qui va être impressionnante cette année. En 6e position, Étienne.
Vous m'avez même surpris que vous ne l'avez pas nommé encore, cette équipe-là. Je pensais que je les voyais haut, mais je suis allé avec les Saguenay de Chicoutimi. Après une saison où ils sont allés le tout pour le tout, ben ça n'a pas marché, mais il leur reste encore des bons joueurs. Il y a beaucoup de gros départs là, quand on pense à Samuel Lavoie, à Kotkov, à Marcotti, à quelques autres joueurs que j'oublie. Mais il en reste encore des très bons avec Hendrix Lapierre, qui a connu une saison misérable l'an passé à cause de ses deux commotions cérébrales là, qui lui ont fait regarder les matchs des estrades. Là. Mais cette année, est-ce qu'il va... À ce que j'ai compris, il avait réglé le problème des blessures puis qu'il était plus solide, là. Donc, s'il réussit à jouer une saison complète, là, moi, j'ai pas de doute qu'il peut exploser puis ramasser une somme de points incroyable.
C'est incontestablement une année charnière pour lui, en tout cas.
Ah oui, absolument. J'ai écouté de Dawson Mercer aussi, là, qui risque de sortir en première ronde cette année à LNH. Là. C'est un très bon joueur là, des deux côtés de la glace. Là. Ça va être un des tops du côté de Chicoutimi. Il y a aussi dans les buts, il y a Alexei Schenk qui est très bon. Puis il y a Samuel Wood qui peut produire une bonne somme de points aussi. Mais du côté de Chicoutimi, ça me fait penser aussi à Halifax l'an passé. Ça passe ou ça casse. Hein. On n'a plus beaucoup de choix au repêchage. Là, donc si un mauvais début de saison, là, malheureusement, là, je pense qu'il va falloir vendre. Mais si ça marche bien, je sais que Yannick Jean il va vouloir y aller pour une grosse saison.
Philippe?
C'est là que je me suis écoutez, là, les top 5, top 6, c'est moins facile. J'ai mis les aigles muets parce que je croyais vraiment qu'Egor Sokolov allait revenir avec Sean Element et tout le noyau avec Ryan Francis. Je pensais vraiment que Cap-Breton allait éclore, mais si vous me dites vraiment que le meilleur pointeur ne se représente pas, effectivement, ce choix-là se promet d'être là.
J'ai tellement. C'est l'équipe probablement que j'ai le moins suivi là, dans les dernières années.
Oui, c'est ça. Hein, écoutez, on va se le dire. Ici au Québec, c'est pas tout le monde qui est un fan des Screaming Eagles.
Non,
les Eagles du Cap-Breton. C'est pas facile à suivre si on les voit pas. Par contre, cette année, le fait que les matchs seront seulement disponibles en web diffusion, nous forcera peut-être à certaines occasions de pouvoir regarder un peu plus.
Pour moi.
Ben, il pourrait nous surprendre.
Ouais, il pourrait nous surprendre. Mais moi aussi, d'accord avec Lou Philippe, dans mon classement, ils sont en 6e position. Une équipe que je ne suis pas vraiment, je vais avouer. Je suis pas un très grand fan des Eagles du Cap-Breton. Mais que j'ai pas grand chose à dire sur. Les goals, comme tu dis, la perte de leur meilleur marqueur va leur faire mal, mais c'est...
Ben, ils se plaisaient vraiment là-bas, hein. Ouais. En plus, là, ils livraient de la pizza, je pense qu'ils livraient de la pizza, ah, ouais. Il parlait pas un mot anglais, il est arrivé de la Russie, puis il aurait pu jouer aux jeux vidéo dans son sol, comme il disait, mais non, il s'était beaucoup impliqué dans la communauté, c'est vraiment un gars apprécié, Sokolov, fait que ça va faire très mal à l'équipe. Okay.
Je l'avais vu jouer au Mondial Junior avec l'équipe de la Russie, là, il était très très bon.
Et que ouais, j'ai juste ça à dire sur les goals parce que je connais pas beaucoup. On est rendu, mesdames et messieurs, j'espère que vous nous suivez. on est rendu dans le top 5 du classement général. Et là, ça va être très très intéressant de nous entendre parler de notre top 5. La 5e position, Étienne.
Oh, ça va être... Peut-être, bon, ben moi je vais aller en 5e position, je vais aller avec une équipe que vous avez mis un peu plus haut, là. Je suis allé avec les Islanders de Charlottetown. C'est pas une équipe qui a beaucoup, beaucoup de talent offensivement et défensivement, quoique leur défenseur, là, Lucas Cormier, je pense pas que vous lui en avez parlé, là. Il risque de sortir dans les deux premières rondes du repêchage de LNH cette année, là. Il a compté dans les 50 points l'an passé, il pourrait en faire encore plus cette année.
Il est dans mes notes, mais je l'avais pas parlé.
Ok. C'est un très très bon défenseur. Il va être dans les top défenseurs de la ligue. Ça, j'en suis certain. Dans les buts en plus, là, ils accorderont pas beaucoup de buts cette année là, avec l'excellent gardien, d'après moi, qui va être le meilleur gardien de la ligue cette année. Simple prédiction. Colton Ellis, le deuxième gardien.
Je m'assinerai pas avec celle-là.
Non. Le deuxième gardien, Jacob Gooby. Qui a 17 ans, qui avait montré des belles choses à 16 ans l'an passé. Là, c'est un gardien d'avenir. Du côté des Islanders, là, il y a tellement une belle histoire de gardien là-bas. Là. L'an passé, il y avait Welsh, qui est un gardien qu'on n'en parlait pas énormément, là, mais que j'avais vu jouer souvent. Là. Il est très, très bon. Là. Donc, du côté des gardiens à Charlottetown, là, c'est excellent. À l'attaque, un instant. Je retrouve mes notes. Il n'y a pas énormément de gros attaquants, là, mais on parle de Brett Budgell qui pourrait produire l'an prochain. Cédric Desruisseaux, Thomas Casey. Ouais. Il manque peut-être de talent offensivement. Là, mais je pense
Ça va être l'équipe de la trappe. Comme les vrais Islanders dans la Ligue nationale, incontestablement. Ah, c'est ça. Les matchs beaucoup de buts, mais ça pourrait être un système efficace.
Ouais. C'est pour ça que je les vois en 5e position.
Louis-Philippe?
Moi, je l'ai mis en cinquième position. C'est sans grande surprise, je pense, les Phoenix de Sherbrooke qui devraient être dans le top 5, mais on va évidemment nuancer le fait que c'est si Félix Robert joue, si Samuel Poulain joue, si Samuel Bolduc joue. C'est toutes des choses qu'on sait pas à long terme s'ils vont finir l'année là. Eux l'espèrent, mais rien de moins sûr pour l'instant. Ils ont tous signé des contrats professionnels avec des équipes qui ne s'appellent pas le Canadien de Montréal, à noter. Et ça, même s'ils n'étaient pas repêchés, dans le cas de Robert et de Bolduc, je Robert, pense que ça passe beaucoup par là.
Il y a 21 ans, non?
Ah, il y a 21 ans.
Je suis pas sûr. Quand tu parles, je vais aller chercher.
Ah, mais c'est possible, c'est possible. À ce moment-là, c'est moi qui est dans l'erreur, puis il y a 21 ans, on n'en parle plus, mais je pensais que ce noyau-là était possiblement en train de revenir avec Billy Peach et compagnie.
Ouais.
Puis là, les Européens sont encore pris en Russie, hein. L'ambassade russe a 120 autres joueurs pour revenir au Canada. Puis ça, c'est sûr qu'ils vont manquer le camp d'entraînement. Ça va commencer un peu, là, l'ère de l'après Jocelyn Thibault. Ça va être un peu dans le cafouillage, puis ça va être à suivre de ce côté-là, mais je pense que le noyau de talent était tellement fort que je ne peux pas y mettre quand même en bas de cinquième, mais ça va dépendre de plein de facteurs là, à chaque fois.
Bien d'accord.